Notre Père, nous nous tenons devant ta face parce que tu nous accueilles avec joie. Et ton cœur se réjouit de voir ton peuple se tenir devant toi pour louer ton nom, pour te glorifier et pour écouter ta parole. Dispose notre cœur à la recevoir avec reconnaissance, avec foi, afin qu'elle accomplisse son œuvre dans notre vie, qu'elle nous fasse grandir, qu'elle nous rende aptes à toute bonne œuvre pour t'honorer et te plaire. Gloire à ton nom. Amen. Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Je lis avec vous. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous fera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Prenez un petit cylindre, on va dire 10 cm de rayon ou de diamètre, et mettez un axe de rotation au centre du cylindre. Entourez le cylindre de papier avec des écritures sacrées, toutes petites. Et vous allez obtenir quoi ? Un moulin à prière. Prenez votre moulin à prière, tournez-le sur son axe. Tout ce qui est écrit sur les petits papiers va se diffuser dans les airs pour accomplir le bien à l'égard de l'humanité. Si cela vous embête de le tourner tous les jours, accrochez-le à un mur où il y a du vent et le vent fera son œuvre. Ce n'est pas ce que je vous encourage à faire. C'est ainsi que prient les bouddhistes, des moulins à prière, des morceaux de tissu sur lesquels on écrit des prières sacrées qu'on accroche au vent. Et le vent est censé les disperser pour qu'elles accomplissent leur œuvre. Vous savez, lorsque nous comparons la manière de prier des chrétiens à la manière de prier dans les autres religions, nous pouvons vraiment mesurer l'immense privilège que nous avons en tant que chrétiens. Jésus-Christ nous a appris à prier d'une manière absolument unique. Et c'est un privilège complètement différent pour nous concernant la manière de prier. Ce ne sont pas des prières rituelles récitées comme par magie. Ce ne sont pas des bavardages, ce ne sont pas des gestes que nous accomplissons comme je le faisais lorsque j'étais musulman. Se prosterner, se relever, se reprosterner, se relever, c'était purement rituel. Mais la prière est une conversation, non pas à distance, mais dans la présence même de notre Dieu. C'est la chose la plus incroyable que nous avons du mal à mesurer. Nous, pauvres humains, tout petits, tout minuscules, nous osons. Non seulement nous osons, nous sommes invités à nous tenir devant le Seigneur du ciel et de la terre. Et nous le faisons en nous adressant à lui comme à celui qui est notre Père. Si seulement cela pouvait toucher notre cœur, nous serions radicalement transformés. Et c'est un privilège immense pour chacun de nous. Dans aucune religion, vous ne trouverez cette proximité respectueuse entre l'homme et Dieu. Elle est possible seulement grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a rendu possible pour chacun de nous. Et c'est cette vérité, se tenir face à face avec le Dieu souverain, avec le Dieu tout grand, tout immense, c'est cette vérité-là que nous apprend ces versets que nous avons lus dans Hébreux chapitre 14 à 16. Il y a tellement de choses à dire sur la prière. La Bible nous montre la prière d'une manière vraiment spécifique et unique. C'est l'occasion pour nous de s'arrêter un petit peu sur un aspect de la prière. Il y a la prière de louange, il y a la prière d'adoration, il y a la prière de reconnaissance, il y a la prière de repentance. Mais il y a la prière de demande. Parce que Dieu nous encourage à lui faire des demandes. Faites connaître tous vos besoins à Dieu, nous dit Paul notamment. Et ici, nous sommes invités à nous approcher de Dieu pour obtenir de lui ce dont nous avons besoin. Le verset 16 nous dit « Approchons-nous donc du Dieu de la grâce » ou du trône du Dieu de la grâce. Ces versets que nous avons lus sont magnifiques parce qu'ils nous présentent tellement de raisons pour lesquelles nous sommes encouragés à demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Dieu ne nous dit pas « demandez peut-être, demandez si vous voulez ». Il nous dit « mais faites-le, je vous y encourage, je vous presse de le faire ». Il y a tellement de raisons. Et la raison pour laquelle, les raisons pour lesquelles nous sommes encouragés sont tellement nombreuses, je vais m'arrêter sur trois rapidement. Et la première, c'est ce qui est affiché. Nous sommes encouragés à prier, à demander à Dieu, parce que nous nous approchons du trône de la grâce. L'accent est mis sur le trône de la grâce. Nous nous approchons du trône de la grâce. Vous voyez que le mot « approchons-nous » nous parle de la prière en faisant de la prière non pas des gestes ou un rituel ou des paroles répétées, mais la prière est avant tout un mouvement. Approchons-nous. Non pas un mouvement dans l'espace, mais un mouvement de l'âme, un élan du cœur, un empressement à aller vers Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin de se laver, de se purifier et je ne sais quoi d'autre pour ne tenir devant Dieu. Certaines religions, si vous ne passez pas 10 heures avant d'être prêt à prier, vous n'avez pas le droit de prier. Le miracle pour le chrétien, c'est qu'il lui suffit de fermer les yeux et il est dans la présence de son Dieu. C'est ça ce que Dieu nous a rendu possible par Jésus-Christ. Un élan du cœur, un mouvement de l'âme. Et là, je suis dans la présence même du Seigneur. Cela n'était pas toujours possible. Il fut un temps où les hommes étaient séparés de Dieu. Ils n'avaient pas le droit de s'approcher de Dieu. Et cette séparation était symbolisée par un voile que Dieu a dressé dans le temple. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait un temple au milieu du peuple d'Israël et Dieu symbolisait sa présence dans un endroit du temple. Et cet endroit était interdit d'accès. Et cette interdiction était symbolisée par un rideau qui empêchait les gens d'entrer dans cet endroit-là. Le trône de grâce était fermé. Il y avait des trônes. C'était le trône de la justice, c'était le trône du jugement, c'était le trône du châtiment. Et ceux qui s'approchaient de Dieu ne pouvaient se trouver que face à ces trônes-là. Jugement, châtiment et punition. Et quand on s'approche de ces trônes-là, on a envie de dire une seule chose. Malheur à moi, je suis perdu, je suis puni. Et la seule chose que nous avons envie de faire, ce n'est pas de nous en approcher, c'est de nous en éloigner. Parce que nous sentons le jugement de Dieu et sa condamnation. Mais Jésus est venu. Et avec lui sont venus la grâce et la vérité. Deux choses essentielles à savoir. Avec Jésus sont venus la grâce et la vérité. Et dorénavant, c'est un trône de grâce qui est dressé devant nous. Jésus est venu au milieu de nous. Il a pris sur lui ce qui nous séparait de Dieu. Il a détruit le mal et le mur qui faisait un obstacle. Et par sa mort sur la croix, symboliquement, ce rideau qui était dressé entre Dieu et les hommes s'est déchiré. Non pas par le pouvoir des hommes, mais par le pouvoir de Dieu, parce que le rideau s'est déchiré de haut d'en bas et non pas de bas en haut. Et c'était le symbole que dorénavant, l'accès à la présence réelle de Dieu est possible. Est-ce que vous imaginez qu'avant Jésus-Christ, on ne pouvait pas accéder à Dieu, sinon par l'intermédiaire de quelqu'un ? Il nous représentait devant Dieu et nous restions loin. Aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, tout être humain qui se confie dans le Seigneur, avec le Seigneur et en lui, se tient dans la présence même du Dieu trois fois saint, n'ayant plus peur de son jugement ou de son châtiment, mais se réjouissant de ce que ce Dieu lui offre, parce que dorénavant, il est devant un trône de grâce et non pas de jugement. Le trône de grâce, le trône de la grâce. Le texte de la semeur nous dit, devant le trône du Dieu de la grâce. Mais en fait, littéralement, ça veut dire que nous nous approchons du trône de la grâce. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette expression-là. Elle est incroyable. Le trône de la grâce. C'est comme si la grâce était la souveraine du monde. Dorénavant, c'est la grâce qui dirige le monde. Elle est assise, trônant sur son trône. Elle est là, royale, majestueuse. Et elle est là, les mains tendues vers toutes ses créatures, prêtes à donner à tous ceux qui lui réclament. Le trône de la grâce. C'est pour nous montrer que la grâce de Dieu est la reine, et non plus sa sainteté qui nous condamne. La grâce de Dieu occupe elle-même cette place avec Dieu. Ces mots-là nous disent que Dieu est roi et que la chose royale en Dieu, c'est sa grâce infinie. Et le sachant, alors, je m'approche du trône de la grâce. Je suis encouragé à la prière parce que je sais que m'approchant du trône de la grâce, j'y trouverai tout ce dont j'ai besoin. Et je n'ai pas à me bagarrer pour obtenir. J'ai à demander humblement et simplement parce que de la grâce, du trône de la grâce, coule une rivière qui va grandissant. C'est une image qui est donnée dans Ézéchiel. Un fleuve d'eau vive qui s'écoule et plus il avance, plus il s'élargit et plus l'eau est abondante. C'est ça le trône de la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est ce que Dieu me donne, non pas parce que moi je le réclame par mes mérites, mais parce qu'il est un Dieu de grâce. Vous voyez, si je devais m'approcher de Dieu en lui disant « Voilà ce que j'ai fait, et maintenant, réponds-moi, je n'obtiendrai jamais rien. » Et cela me découragerait d'aller à la prière. Parce que, qu'est-ce que je pourrais offrir à Dieu, moi, pauvre, misérable créature, moi qui suis un pécheur, moi qui ne suis rien, moi qui suis en totale nécessité, qu'est-ce que je pourrais apporter à mon Dieu pour l'impressionner, afin qu'il me donne. Mais sachant que je n'ai rien, mais que lui, il a tout, je peux m'approcher du trône de la grâce et recevoir de lui en abondance. Je ne suis qu'un pauvre, je suis sans défense, je suis pécheur, je suis indigne, je n'ai rien à offrir que ma profonde misère, je n'ai rien à offrir que mes plaintes, que mes gémissements, que mes misères, que mes soupirs, que mes larmes. Alors, je m'approche du trône de la grâce. Mais en même temps, je sais que je m'approche du Dieu de toute grâce. Et je sais quel est le Dieu qui est capable de changer mes larmes en chants de joie. Il est capable de changer mes gémissements en action de grâce et en reconnaissance. Car au trône de la grâce, je trouve la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la joie de Dieu. Au trône de la grâce, je trouve pardon, justification, adoption, paix, réconfort, lumière, direction, repos. Et tout ça m'est offert. Je n'ai pas à le mériter. Il est à ma disposition et c'est ça qui m'encourage à prier, à aller vers le Seigneur de grâce et à lui demander selon mes besoins. Au trône de grâce, je sais que jaillissent du cœur de Dieu pour les pauvres, pour les humbles, pour les malheureux, tout ce dont ils ont besoin. Tout ce dont ils ont absolument besoin. Et cela m'encourage à aller vers le trône de la grâce. Mais peut-être que tu ne le fais pas. Peut-être que tu restes à distance du trône de la grâce. Si les pauvres, les inconsolables, c'est les coupables, c'est les assoiffés, c'est les fatigués, si les malheureux, si tous ceux qui expriment leurs besoins, si tous ceux qui crient et assiègent le trône de la grâce le font, pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui t'empêche de te jeter au pied du trône de la grâce et d'implorer ton Seigneur afin qu'il déverse dans ton cœur ce après quoi ton cœur soupire? Dieu t'invite, viens au trône de la grâce, fais-le, non pas maintenant seulement, non pas ce soir seulement, mais fais-le tous les jours de ta vie. Fais-le tous les jours de ta vie, parce que Dieu a en réserve pour toi des bénédictions qu'il veut t'accorder. Mais il veut que tu prennes conscience de ta misère et de ton besoin de lui. Il veut que tu saches pour toi-même que tu es dépendant de lui, que tu ne possèdes pas de toi-même ce dont tu as besoin, que spirituellement tu es pauvre et que tu as besoin d'un grand Dieu qui a tout honneur et toute joie de t'enrichir de sa grâce et de sa bonté. Alors, qu'est-ce que vous diriez avec moi? Viens au trône de la grâce. Viens aujourd'hui et prends la décision aujourd'hui de le faire non seulement aujourd'hui, mais demain, mais après-demain, mais tous les jours de ta vie. La prière, c'est la meilleure manière de dire à Dieu, je dépends de toi, j'ai besoin de toi, je n'ai pas en moi toutes les réserves pour vivre, mais toi, tu les as toutes et tu es disponible pour me les accorder, pour me les donner. Lorsque vous êtes devant le trône de la grâce, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Quelqu'un d'autre est déjà là. Mais là, il y a un paradoxe. Parce que celui qui est devant le trône, il est aussi assis sur le trône. C'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Mais c'est la vérité. Parce que lorsque vous vous tenez devant la grâce, devant le trône de la grâce, vous vous rendrez compte qu'il y a Jésus qui est là devant le trône et qui intercède pour vous, qui prie vos prières et qui prie d'autres prières bien meilleures que les vôtres. Mais il prie qui? Il prie le Père, non pas comme si le Père résistait à répondre, mais il prie le Père dans un dialogue d'émerveillement et d'un commun accord, ils sont prêts à répondre à cette prière-là. Il est à la fois l'intercesseur et celui qui écoute la prière pour l'exaucer. Et nous avons là la deuxième raison qui nous encourage à faire des prières de demande. Bien sûr, parce que nous nous approchons du trône de la grâce, mais la deuxième raison, c'est parce que Jésus est notre grand prêtre. Il est notre grand prêtre. Vous avez remarqué que le verset 16 nous dit « Approchons-nous donc ». Vous connaissez ce mot-là. Donc, ça veut dire que c'est la conséquence de quelque chose qui a été dite juste avant. Les versets 14 et 15 nous présentent le Seigneur Jésus comme le grand prêtre ou le souverain sacrificateur qui a traversé le ciel et qui est assis à la droite de la majesté divine et qui compatit pour nous, avec nous. Et parce que ce Sauveur est assis à la droite de Dieu, l'Écriture nous dit, approchons-nous. Donc, parce que Jésus-Christ est notre grand prêtre, alors nous sommes absolument encouragés à faire des prières de demande. Parce que toutes les demandes que nous pourrions faire et qui sont trop lourdes pour nous, quelqu'un est à nos côtés pour se charger avec nous de les présenter à Dieu le Père. Et celui qui les présente à Dieu le Père a bien meilleur mérite que nous. Si j'étais seul à présenter mes prières, Dieu ne me regarderait même pas. Mais parce que je les présente avec mon Sauveur Jésus-Christ qui est à ma droite et qui me défend, qui intercède pour moi, je sais absolument que ma prière va être exaucée, que Dieu va m'écouter. Nous avons en Dieu, en Jésus-Christ, un grand prêtre. Vous savez ce que ça veut dire un prêtre ? Un prêtre, c'est celui qui se tient devant quelqu'un. C'est un mot latin, praeter, qui veut dire se tenir devant. Donc le prêtre, c'est celui qui se tient devant Dieu. Et le grand prêtre, c'est celui qui représente tout le peuple. Mais là, nous n'avons pas un prêtre ou un grand prêtre. Nous avons un grand prêtre qui est encore plus grand. C'est un pléonasme. Vous savez, le texte nous dit, nous avons un grand prêtre éminent. C'est-à-dire un très grand prêtre qui est très grand. Je ne sais pas comment Dieu voudrait nous faire croire que vraiment nous avons quelqu'un qui est plus grand que ce que nous pourrions jamais penser. C'est un très grand prêtre qui est encore très, 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 très grand. Et parce qu'il est le très grand prêtre, tout ce qu'il fait pour nous est très, 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 très grand. Infiniment grand. Et ce qu'il fait pour nous, c'est de nous représenter devant Dieu. Et en lui, nous sommes présentés devant Dieu. Ce grand prêtre a une responsabilité de nous représenter et en même temps de faire une offrande à Dieu pour nous. Et le très grand prêtre éminent, Jésus-Christ, s'est présenté devant le Père en faisant offrande de sa propre vie à Dieu le Père, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et l'offrande de Christ est tellement grande qu'elle est suffisante pour effacer les péchés du monde entier. Du monde entier. Et alors, ce Seigneur ne nous représente pas sur terre. Il n'a pas traversé un espace terrestre. Il a traversé les cieux. Au verset 14, nous lisons, « Puisque nous avons un très grand prêtre éminent qui a traversé les cieux. » Jésus-Christ ne nous donne pas accès à une présence symbolique de Dieu. Je ne me tiens pas devant quelque chose qui représente Dieu pour moi. Ça pourrait être une statue, ça pourrait être je ne sais quoi. Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que par Jésus-Christ, je peux me tenir dans la présence même de Dieu. Parce que le chemin qui m'était fermé, il l'a ouvert en traversant les cieux. C'est comme s'il a balisé le sentier et dorénavant, je peux marcher tranquillement et avec un élan du cœur, je me tiens devant le Seigneur. La présence réelle de Dieu. Voilà la prière pour le chrétien. Et c'est Jésus, le Fils de Dieu, comme dit le texte. Nous avons en Jésus le Fils de Dieu. Vous voyez que cette expression parle de Jésus dans son humanité. Et elle parle en même temps du Fils de Dieu en tant qu'il est Dieu même. Parce que Jésus est à la fois homme et Dieu, il peut, se tournant vers le Père, être accueilli par lui, et se tournant vers moi dans son humanité, m'accueillir tel que je suis. Et en Jésus, notre Seigneur, il y a la jonction de l'humain et du divin. C'est une manière merveilleuse de dire que, en Jésus-Christ, les hommes et Dieu sont réconciliés. Et dorénavant, ils peuvent s'approcher l'un de l'autre. Ils se sont tellement approchés qu'ils sont devenus, en Jésus, une seule personne. Une seule personne. Nous croyons que Jésus est une seule personne, à la fois 100% homme et à la fois 100% Dieu. Et c'est la meilleure façon pour nous de comprendre que, oui, nous pouvons aller vers Dieu parce que Dieu nous a accueillis en Jésus-Christ, l'homme. Et Jésus n'est pas simplement notre grand prêtre, il est notre grand prêtre compatissant. Compatissant. Comme dit le texte, car nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Compatir, ça veut dire souffrir de la souffrance de celui qui souffre. Éprouver dans sa propre chair, dans ses entrailles, ce que l'autre endure comme douleur et angoisse. Et parce qu'il est homme, et parce qu'il a lutté dans le jardin de Gethsémani, et parce qu'il a lutté toute sa vie contre le mal et contre le péché, Il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes faibles et il comprend notre lutte et nos angoisses. Il ne le comprend pas intellectuellement, il le comprend d'expérience. Notre Seigneur Jésus-Christ a lutté avec des larmes, avec le sang, contre le mal et contre la tentation. Et il en a triomphé. Et parce qu'il en a triomphé, il peut venir à notre secours. C'est notre grand prêtre qui est compatissant. Et c'est un grand prêtre, parce qu'il est compatissant, il prie pour nous. Lorsqu'il voit notre douleur, cela l'émeut. Et lorsqu'il est ému, il agit. Et comment agit-il ? Dans l'intercession. Nous avons lu tout à l'heure le texte de Jean 17, où nous le voyons intercéder pour son peuple. Vous voyez, le ministère actuel de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il intercède pour nous. Il prie pour chacun. Il a prié pour son Église quand il était sur terre, et il continue d'intercéder pour son peuple maintenant qu'il est au ciel. Et il présente à Dieu le Père des prières de supplication pour que son peuple soit préservé, soit gardé, soit secouru, soit aidé dans ses besoins et contre ses faiblesses. Et j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir aux prières que Jésus fait maintenant. Écoutez, tendez l'oreille. D'après vous, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Qu'est-ce qu'il est en train de prier ? Imaginez. Père, je te prie pour l'église de Caen. Père, je te prie pour Jacques. Je dis Jacques, j'aurais pu dire Marcel. Charlotte, Anthony, je le vois. Il a le désir de te plaire et de t'honorer. Il veut faire au mieux son travail. Il veut accomplir pour toi ce que tu attends de lui. Je te demande de l'aider. Je te demande de réaliser en lui ton projet de vie. Et le Père se réjouit d'entendre cette prière parce qu'elle vient de celui qui ne peut pas prier autrement que selon la volonté de son Père. Ce que Jésus prie, il le prie en accord total avec le Père. Et le Père accueille cette prière avec joie et les trois l'exaucent. La prière, c'est un miracle extraordinaire de la Trinité parce que l'Esprit intercède pour nous sur terre, le Fils intercède pour nous au ciel et les trois écoutent notre prière pour la réaliser pour chacun de nous. Père, je te prie pour Clémentine. Elle lutte contre la tentation. Elle n'arrive pas à s'en sortir et elle voit qu'il y a moyen de s'en sortir en volant de l'argent. Je te prie de parler à son cœur et d'éviter que cette tentation ne soit une chute pour elle. Père, je te prie pour Albert et je te demande d'aplanir son chemin. Le péché est tapis sur sa porte. Le mal veut le dévorer. Alors je te le confie et je te prie de le préserver. Père, je te prie pour un tel et je te demande qu'il ne succombe pas à la tentation. Parce que le diable l'a réclamé, parce que le diable le secoue et il se fragilise. Sa foi est en danger. Je te demande, Père, de préserver sa foi, de le protéger contre la tentation, de l'aider dans sa faiblesse. Père, j'entends un tel qui prie. Il te fait confiance. Il n'arrête pas de dire la même promesse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Comme il te fait confiance, Père, je te prie. J'intercède pour lui. Honore sa foi. Exauce sa prière. Et le Père se réjouit d'écouter cette prière-là. Quelle est ta prière à toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pries aujourd'hui? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu aujourd'hui? Tout ce que tu lui demandes, même quand ce n'est pas pur, même quand c'est très imparfait, l'Esprit est là pour purifier ta prière et le Fils est là pour la présenter à Dieu le Père. Et les trois sont d'accord pour te répondre. Ils sont d'accord pour te répondre. Parce que nous avons absolument la certitude que Dieu répond à nos prières. Et c'est cela qui nous encourage à faire des prières de demande. Nous prions parce que nous nous approchons du trône de la grâce. Nous prions parce que Jésus-Christ est le grand prêtre compatissant et priant pour nous. Et nous prions aussi, c'est la troisième raison, parce que nous savons que Dieu répond à nos demandes. Nous prions parce que Dieu nous secourt au bon moment. Dieu nous secourt. S'il y a un mot qui revient le plus souvent dans les Écritures, c'est le mot secours. Si vous êtes un être humain, alors un jour ou l'autre, vous crierez au secours. Au secours. Nous traversons des moments terribles dans notre vie, quel que soit l'âge que nous avons. Et si ce n'est pas le cas, un jour viendra où vous crierez au secours. Mais la Bible est remplie de ce mot. Et elle est remplie de ce mot parce que nous connaissons un Dieu qui est un Dieu qui nous secourt, qui vient à notre secours. Regardez quelques versets que nous allons lire rapidement. Quelques versets. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. 46.1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Et Paul nous dit, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands. Je m'arrête là, mais il y a des dizaines de passages qui nous présentent notre Dieu comme celui qui nous secourt. Dieu est notre refuge et notre appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu vient à notre secours, mais il vient à notre secours au moment qu'il juge opportun. Et c'est là où les choses se compliquent pour nous. Parce que nous crions « Dieu au secours !» Et Dieu nous dit, je t'ai entendu, mais je te répondrai au moment que moi j'ai fixé, au moment opportun. C'est un mot qui est important au bon moment. Alors vous avez plusieurs traductions. La Bible du Semeur nous dit que Dieu nous exauce au moment opportun, au bon moment, que Dieu nous secourt au bon moment. Peut-être que vous avez une traduction qui dit « pour être secouru dans nos besoins ». Littéralement, c'est pour un secours approprié ou pour un secours opportun, c'est-à-dire pour un secours au bon moment. Vous savez que Dieu a fixé dans son agenda toutes les réponses à vos prières ? Oui ? Au bon moment. Il a mis des croix quelque part, en disant, je vais les secourir à tel moment et à tel moment. Dans les Écritures, il y a deux mots qui parlent du temps. Il y a le temps chronologique, chronos. Il y a un autre mot qui nous parle du temps, mais ce n'est pas le temps qui passe. Ce sont ces moments que Dieu, de sa propre autorité, a désignés comme des moments approprié pour son intervention, pour accomplir son plan de salut et pour exaucer son peuple qui l'implore. Et l'Écriture est remplie de ce mot, le bon moment, le moment choisi, le temps marqué. Là encore, je voudrais vous lire quelques versets, mais il y en a un paquet. Des fois, on n'y prête pas attention, mais il y a un temps que Dieu a désigné pour toute chose, surtout quand il s'agit de réaliser ce dont son peuple a besoin. Regardez, Romains 5, 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Galates 4, 4. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Tite 1, 3. Au moment approprié, au moment fixé, il a fait connaître sa parole par le message que j'ai été chargé de proclamer. un moment, un bon moment, le moment fixé par Dieu pour toute chose et le moment fixé pour répondre à ta prière quand tu l'implores, quand tu le supplies. Je vous ai fait une illustration pour que vous compreniez ça. Vas-y. Là, vous avez le temps chronos. C'est le temps qui s'écoule. Et ensuite, vous avez les points marqués par Dieu sur le temps, qui sont les temps d'intervention. Vous savez que nous, par nos considérations humaines, nous pensons que tel moment est le moment propice pour l'action, pour l'entreprise, pour accomplir quelque chose. Mais nos bons moments ne sont pas les bons moments de Dieu. Et à mon avis, c'est Dieu qui a raison. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai prié et je pensais que c'était vraiment le bon moment. Et vous savez, aujourd'hui, je dis, Seigneur, merci de ne pas m'avoir exaucé. Je vous assure. Je vous ai déjà donné l'exemple. Quand nous avons prié pour un terrain avec Daniel Gomez, on a offert une somme d'argent pour un terrain faramineuse. Et on a prié même avec l'Église, « Seigneur, donne-nous ce terrain !» Et on a une réponse négative. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire, « Mais Seigneur, vraiment, c'est super que tu n'aies pas écouté notre prière. » Parce que Dieu avait un autre moment et un autre terrain en réserve pour nous qui coûtait 4 à 5 fois moins cher. Parce que Dieu le savait et il a agi d'une manière différente. Je me rappelle une jeune femme qui a prié pour sa réussite à l'école. Elle passait un concours. La première année, échec. Deuxième année, échec. Troisième année, là ça commence vraiment à devenir compliqué. Échec. Mais si vous lui posez la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Elle va dire, je suis bien contente que j'ai échoué. Parce que elle a réussi plus tard, mais parce que Dieu avait en vue un jeune homme tout charmant qui allait venir et qui allait devenir son mari. Si elle avait réussi, elle se serait barrée de la ville de Caen, elle n'aurait pas fait la rencontre du prince charmant. Et aujourd'hui, elle est en train de dire, Seigneur, je te rends grâce parce que c'était une belle occasion pour moi. Alors bien sûr, ces échecs lui ont fait mal. Elle a prié Dieu et elle ne comprenait pas. Mais plus tard, elle sait que Dieu a tardé, que Dieu avait dans son agenda à lui une croix et que c'était pour une bonne raison. Une bonne raison. Alors Dieu, des fois, nous fait attendre dans la pièce d'attente. Ouais, ça, c'est horrible. Hein. Ma belle-mère est allée voir le médecin, elle a attendu 2 heures. Je croyais qu'elle allait mourir. Elle est toujours là, ma belle-mère. Ma belle-mère, c'est Betty. Heureusement qu'elle existe parce qu'elle me donne toujours des illustrations. Nous avons tous fait l'expérience de ces attentes insupportables, de 2 heures dans la salle d'attente du médecin, et ainsi de suite. Et parfois, c'est vraiment insupportable pour nous, lorsque nous attendons dans la salle d'attente de Dieu. Et nous avons l'impression que Dieu est en retard. Mais vous savez, Dieu nous dit, je t'exaucerai au bon moment. Et ça, c'est la meilleure manière de nous encourager à prier. Et c'est la meilleure manière de nous encourager à persévérer dans la prière. Je sais que Dieu a fixé dans son calendrier un moment. Et donc, s'il ne me répond pas aujourd'hui, je le prierai demain. Et s'il ne me répond pas demain, je le prierai après-demain. Je ne connais pas le bon moment dans le plan de Dieu. Mais je sais qu'il est fixé et qu'il va agir favorablement à mon égard, alors cela me stimule à aller vers le trône de la grâce et à implorer Dieu chaque jour de ma vie. Le bon moment. Et Dieu nous laisse attendre dans la salle d'attente, non pas pour nous faire du mal, mais bien au contraire, c'est parce qu'il veut nous faire du bien. Et la salle d'attente est très importante pour nous, parce que la salle d'attente, c'est le moment que Dieu éprouve et fortifie notre foi. Et c'est le moment aussi que Dieu emploie pour travailler sur notre caractère. savez que lorsque nous prions, nous demandons à Dieu d'agir favorablement dans notre vie par rapport à nos projets. Mais pendant que nous présentons nos projets à Dieu, Dieu, il a un autre projet. Vous savez lequel ? Ben, c'est nous. Nous avons notre projet, mais Dieu, sans projet, c'est nous. Et il veut travailler notre vie et nous préparer, parce que le jour où nous serons au ciel, tous ceux pour quoi nous aurons prié et qui nous manquaient et que nous avons reçus, ben, restera sur terre. Par contre, quelqu'un sera au ciel. C'est moi avec mon caractère. Et ce que Dieu fait, c'est de me préparer afin d'être parfait le jour où je serai face à face avec le Seigneur. Le jour où je serai dans la présence de mon Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il viendra me prendre avec lui. Alors voyez-vous, nous avons tellement de raisons qui nous poussent à agir dans la prière et à prier, à faire des prières de demande. Vous n'avez pas vu le schéma que j'ai fait après, c'est l'illustration suivante qui nous montre que les temps de Dieu ne correspondent pas. Vous voyez, si nos temps fixés dans notre calendrier par la réponse de Dieu, c'est le vert, pour Dieu, c'est le rouge. Et alors, des fois, ça coince. Des fois, ça correspond, et des fois, ça ne correspond pas. Mais c'est Dieu qui a raison. Vous voyez là, il y a quelques fois où ça correspond, d'autres fois, ça ne correspond pas. Ce que je veux vraiment que nous gardions dans notre cœur, c'est que notre privilège en tant que chrétien, c'est de supplier notre Dieu, de lui présenter nos besoins, de lui exprimer ce qu'il nous faut, sachant que nous lui demandons des choses qu'il a déjà en réserve pour nous, il veut nous les accorder. C'est le trône de la grâce. Et que nous le prions, non pas par nous-mêmes, mais nous le prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand prêtre éminent qui intercède pour nous. Et nous le prions sachant que Dieu a déjà fixé la réponse à nos prières qu'il nous accordera. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne vraiment la joie d'aller vers lui pendant toute cette semaine pour le prier, pour intercéder les uns pour les autres, pour lui exprimer nos besoins et nous attendre à lui, parce que Dieu veut que son peuple le prie. Alors, prions.